Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
Et de François Genet.
Bonjour.
Ah, parlez-moi de ça, le plaisir et le bonheur.
Oh
et
oui.
Cette semaine, dernière émission
de la décennie.
Effectivement.
Ben oui.
Dernière émission de la décennie.
Ça a l'air grave dit comme ça.
C'est... Oui, ça peut être
je voulais mettre un peu de suspense oui, dans l'affaire.
Alors, dernière émission parce que la semaine prochaine, on commence déjà la relâche des fêtes et on sera donc de retour avec vous à la mi-janvier. Mais sinon, cette semaine, on a un programme intéressant. Mélina, tu vas nous parler du film Irishman, le dernier film de Scorsese sur Netflix,
qui a sorti sur Netflix.
Oui. Oui, exactement. Et François, tu nous parles du film Noël de l'année passée, de trucs comme ça. Là.
Non, A Night Before Christmas.
Ah, une nuit avant Noël. Ah oui, je le trompe.
Non, mais c'est pas comme ça qu'ils l'ont traduit, mais on va tout décortiquer ça bientôt. Ils l'ont traduit par un moins bon jeu de mots qui est l'alchimie de Noël.
Ah!
Oui, voilà. C'est,
c'est chevaleresque.
Mais écoute, on va tout décortiquer ça tantôt, Jim.
Ben oui, et de mon côté, j'étais voir Les plus belles années d'une vie, donc dernier film de Claude Lelouch. Alors voilà, tout ça dans quelques instants, mais avant, quelques nouvelles, Mélina.
Oui, donc en fait, moi je vais vous parler de la Maison du cinéma qui a annoncé la programmation pour les matinées des fêtes, donc une tradition qui ont quand même depuis quelques années de présenter des films pendant la période des fêtes pour les familles, donc c'est-à-dire à 10h le matin.
Oui.
Les portes ouvrent généralement à 9h30, c'est généralement assez fréquenté comme événement. Donc les dates sont sorties, ça va être le 28 et le 29 décembre, ainsi que le 4 et 5 janvier. Donc, à 10h, comme je le disais. Et les quatre films sont annoncés. Donc, on va avoir Star Wars en version française et version originale en anglais. La Reine des Neiges. Jumanji. Et Espion Incognito.
Wow, je m'attendais pas à celle-là.
Ah non, quand même, ça surprend.
Des films familiaux.
C'est incognito.
Oui, tout à fait.
C'est bien, on encourage les familles qui veulent voir Star Wars à y aller à cette plage-là pour permettre aux fans, comment on appelle ça, les puristes, de le voir en toute tranquillité. On a eu des histoires là-dessus quelques années. Donc, voilà. Donc, merci. Sinon, tu avais une autre nouvelle aussi pour nous.
Non.
Ah non, bon, ok.
Bonjour.
Ça doit être François qui en a deux, je pense.
François, il y en a trois, je pense.
Moi, j'ai... ça n'arrête plus les nouvelles. Hein. C'est une pluie de nouvelles. Oui, tout
ça.
À fait.
Alors, ça change, mais c'est pareil.
Oui, ben, en fait, je vais parler rapidement de Mariana Mazza. Je me suis dit, pourquoi pas parler de Mariana Mazza.
Son nom rime, quoi d'autre à dire?
Ben, et une humoriste québécoise, tout à fait, que tu visais
que
maman.
Je sais c'est qui, oui. Bon, la majorité du monde, oui.
Pas la même génération. Là.
C'est ça. Conflit générationnel.
Ben, en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'elle vient de finir, elle est sur le bord de finir en fait, la tournée de son premier one-woman show.
Ça sonne moins bien, on dirait que c'est dur à le prononcer.
Ah, mais écoute, c'est intéressant quand même à dire. Essaye-le.
Premier One Woman Show.
Ça sonne bien. Alors, et à place de faire comme ce qu'on fait traditionnellement parlant au niveau de l'humour, de sortir un DVD ou un Blu-ray ou sur quelque plateforme que ce soit, de sortir le spectacle.
Avant de faire la tournée?
Non, après.
Okay,
une fois que la tournée est finie, généralement, on sort le spectacle, mais elle s'est dit pourquoi pas faire différent parce que Mariana Mazza fait ça.
Oui. Hein,
elle fait vraiment tout différemment. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est rafraîchissant. Alors, elle a dit, je vais faire un film qui est rempli de sketchs, d'improvisations, il va y avoir des caméos de personnalités connues.
Okay.
Et donc, pour représenter un petit peu c'était quoi son spectacle. Après ça, bon, j'ai hâte de voir
après,
un petit peu que... Non, la tournée
non,
est finie.
Bon, okay.
Jim,
c'est compliqué. Là.
C'est un monde, hein, Jim, l'humour. Mais oui, donc, sa tournée est finie. Et là, elle va lancer ça, et à place d'avoir juste elle sur scène qui dit les jokes, ben il va y avoir des sketchs, de l'improvisation et un petit peu tout ça. Et de ce que j'ai pu lire, il devrait avoir des numéros, mais comme fait en sketch. Là, donc tu revis le spectacle, mais en sketch, puis en improvisation, puis en film.
C'est particulier, parce que c'est le fun, parce que ça réutilise le matériel d'une façon qui va quand même intéresser les gens qui ont vu le matériel original.
Exactement, donc, c'est ça. Ceux qui ont vu le spectacle vont sûrement aussi pouvoir redécouvrir le spectacle, et c'est réalisé par nul autre que Alex Pronovo, qui est un réalisateur montant, évidemment, oui. au niveau de l'humour au Québec. Il fait beaucoup de courts-métrages, de web-séries. Donc, c'est un gros nom aussi qui est
un nom
qui
à
là.
Suivre.
Tout à fait. Sinon, écoute, donc on continue dans les nouvelles.
Les Globe and Globe.
Golden Globes. Golden Globes. Oui, tout à fait. Écoute, les Golden Globes, les nominations sont sorties.
Bon.
Netflix est en feu.
Bon. Parle-moi de ça.
The Irishman est là aussi.
Bon.
Il y a tout plein de trucs. Alors, allez voir ça. Allez vous mettre tout ça sous la dent. C'est assez magique. Mais Netflix est en feu dans les nominations. Et ça, je trouve ça un changement de cap complètement...
Ah, on sent que c'était bien préparé cette nouvelle. Oh, ben, merci.
Écoute, quand on me lance des balles, moi je les retourne aux distributeurs. Alors,
mais c'était ma nouvelle, donc moi j'en ai plus.
Et voilà. Et sinon, une autre nouvelle, oui. tant qu'à aller dans les nouvelles pour préparer, là, on va aller là-dedans aussi. Écoute, François Legault.
Oui.
Premier ministre du Québec est allé parler un petit peu du Québec en Californie auprès des plus grandes industries du monde.
Cinéma.
Du cinéma.
Hollywood, notamment.
Oui, notamment ceux qui se trouvent en Californie, généralement. Non, mais il est allé voir Disney, Sony, Universal, Netflix aussi, et pour essayer d'amener plus de gens à essayer de venir tourner des films au Québec. Et il voudrait même peut-être donner plus que juste du soutien financier. Il voudrait aller vraiment plus loin. Et ça, donc, ça peut être intéressant. Ben ça amène plus de films. Il y en a qui...
plus d'emplois ici.
Exactement. Il y a évidemment quelques craintes de dire est-ce qu'on va tellement mettre d'argent là-dedans qu'on va délaisser les produits québécois à profit de produits étrangers.
Peut-être que PKP va nous sortir une nouvelle campagne La Juste Valeur, mais cette fois-ci, ça sera avec les productions... De...
Moi, je ne me prononce pas sur ce... Donc, voilà. Alors,
non, mais je répondais à François qui disait...
Exactement, le temps le dira. Donc, on va voir où tout cela va nous mener. Puis, est-ce qu'on va avoir des impacts? Il dit qu'il va avoir des impacts assez rapidement. Donc, est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va être positif, négatif, tout ça? Ben, écoute...
Dans le pire des cas, il aura profité du beau temps en Californie.
Ben, tout à fait. Et quand je vais avoir 70 ans, je vais pouvoir sûrement dire... Est-ce que c'était bien ou pas? On verra.
Oui, on s'en parlera.
Oui, sûrement. Je travaille sur ma voix de vieux, tout doucement. Parce que je me dis, quand je vais être vieux, sinon, ça ne serait plus le temps de travailler sur ma voix. Il va être trop tard.
Ouais. Ben, tu travailleras à la voix, dans ce cas-là.
Oh.
Alors voilà, merci beaucoup. C'était les nouvelles. De retour à Cinébrunch, et c'est le moment crucial durant lequel je vais vous parler d'un film que j'ai vu, le dernier film de Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie. Bon, drame français de Claude Lelouch qui met en vedette Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimé, Soad Amidou et Antoine Cyr. Ce film est la suite du film de 1966, Un homme et une femme, donc une cinquantaine d'années après les faits du premier film. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle?
Quoi?
Des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez.
Madame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture.
Et depuis quand?
Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang.
C'était moi.
Mon amour.
Il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'ont regardé comme ça.
De te dire mon amour.
Je me souviens d'elle comme si c'était hier.
Sans chagrin.
Tu étais tellement belle.
Moi, ma réponse.
Il est toujours beau quand on est amoureux.
C'est toi.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut être beau quand on est amoureux?
Toujours.
Alors wow, voilà. Quand même, on aurait cru entendre le film en entier.
C'était oui, il y a beaucoup de. On sent la dualité entre le côté humoristique et le côté dramatique.
Surtout dans la trame sonore.
Oui, effectivement. Alors voilà, je vais vous parler donc de ce film, Mes plus belles années d'une vie. Bon, je vous ai dit que c'était la suite du premier film de 1966, mais dans les faits, en fait, c'est une trilogie. Donc Claude Lelouch avait réalisé Un homme et une femme 20 ans déjà en 1986, donc entre le film de 1966 et celui qui est à l'affiche en ce moment. Et honnêtement, je peux difficilement parler du film Les plus belles années d'une vie sans commencer par parler d'un homme et une femme. Parce que, bon, dans le film de 1966, on apprenait à connaître indépendamment un homme, Jean-Louis, un spécialiste des courses automobiles et de rallye. Et Antoine, Antoine, c'est son fils. Jean-Louis avait un fils, Antoine, et voilà, on vient de perdre.
Et voilà. C'était la chance qu'on avait de suivre, et là, boum, on dérape.
Donc, pour reprendre, donc Jean-Louis, le spécialiste des autos, a un fils, Antoine.
Mais
et, on apprend aussi également dans ce film-là à connaître une femme, Anne Gauthier, une script au cinéma, elle a une fille, Françoise. Les deux enfants, Françoise et Antoine, fréquentent le même pensionnat à Deauville.
On va mettre un diagramme de tout ça quelque part sur notre page Facebook.
C'est fou à quel point, à chaque fois que j'essaie de rendre quelque chose simple, ça le complexifie. Donc, ils fréquentent ces deux enfants-là, le même pensionnat à Deauville, dans le nord de la France, et leurs parents, Jean-Louis et Anne, se rencontrent donc pour la première fois par un dimanche, alors qu'ils ramènent leurs enfants à l'école, et Anne a raté son train. Jean-Louis va la ramener à Paris, et en fait, durant ce film-là, qui est un film culte, là, le film « Un homme et une femme », ben, une bonne partie du film va se passer dans cette rencontre-là qui se passe pendant cette balade-là en voiture. Il va y avoir plusieurs autres balades en voiture. Et on apprend vraiment de cette rencontre anodine. On découvre la naissance d'une incroyable tension, d'un grand désir, d'un amour un peu profond. Et on apprend à connaître donc chacun de ces deux personnes-là en même temps qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes. Donc, voilà. Maintenant, le film s'achève un peu en queue de poisson, donc le film de 1966, parce que l'amour le plus fort est souvent impossible, mais aussi parce que, bon, Anne pense encore à son mari qui est défunt. Les deux sont veufs, là, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on voit le temps qui passe jusqu'à ce film-ci. Maintenant, je vais pas parler du deuxième film, le film de 1986, parce qu'il y a honnêtement aucune référence à ce film-là dans le nouveau film qui est à l'affiche. Et aussi, ça n'a pas été un gros succès cinématographique non plus comme film. Donc, un peu plus léger. Mais moi, j'avoue que je l'ai quand même apprécié.
Est-ce que l'arbre généalogique est plus facile à comprendre?
En fait, c'est pareil. Mais ce qui est la beauté de la chose, que je vais en parler dans quelques instants de la beauté de la chose, ce que je veux dire, c'est que pourrait considérer, contrairement dit, il n'y a eu que deux films.
Okay.
Quand on va voir Les plus belles années d'une vie, ça se passe 50 ans à peu près après le film de 1966, et il n'y a rien eu vraiment entre les deux. On ne fait pas référence à cette re-rencontre-là. Il n'y en aurait pas eu. Donc, on annule l'existence du deuxième film.
On va même à l'encontre. On ne fait pas juste ne pas en parler. C'est que pour les puristes...
La manière dont il traite de l'information laisse croire qu'il annule complètement l'existence du deuxième film. À travers ça. Est-ce que c'est une chicane de production? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on n'en parle pas. Donc, 1966 suivi de 2019. Et à partir de maintenant, je vais juste vous parler du nouveau film, le film Les meilleures années d'une vie, Les plus belles années d'une vie, pardon. Et bon, évidemment, Jean-Louis a pris un coup de vieux, il vit dans un foyer. On apprend qu'il est depuis toujours un tombeur, ce qui n'était pas nécessairement dit dans les autres films, et que c'est pour ça qu'Anne l'aurait laissé il y a si longtemps, dans les années 60. Ça m'a un petit peu dérangé parce que ça n'a jamais été amené de cette façon-là avant. Je trouvais que c'était une drôle de façon. Ou on était extrêmement pudique dans le premier film. En tout cas, je sais pas. Le sous-entendu, j'avoue que la prémisse, je l'aime pas beaucoup. Mais bon, il se rattrape sur d'autres points. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'au niveau des acteurs, c'est totalement formidable. En fait, j'en ai parlé dès l'annonce du film l'an dernier, quand on a annoncé que Claude Lelouch allait tourner la suite d'Un homme et une femme.
Ouais.
Ce sont les mêmes acteurs qu'en 1966 qui jouent leur propre rôle. Mais pas que les deux personnages principaux, les deux enfants aussi.
Ce
qui est très, très rare.
Ben oui.
Donc, et ça, c'est phénoménal. Et honnêtement, je trouve ça formidable. Le jeu s'est évidemment amélioré aussi avec les années. On a eu... même assez peur pour Jean-Louis Trintignant, qui était très malade. Donc, l'acteur qui joue Jean-Louis, justement, pendant le tournage, il était très malade. Finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé avec lui, mais le film a été tourné au complet. Au niveau du style, en fait, c'est tout à fait minimaliste, ce film-là. Un peu comme pour les autres films, on est pas dans des décors extrêmement impressionnants. Là, on est dans la simplicité. Je pense que ce film-là n'a pas dû prendre beaucoup de temps à tourner, honnêtement, à voir le nombre de lieux de tournage. À mon avis, c'est une affaire de quelques semaines là, okay. Au niveau du tournage comme tel. On se souvient qu'une pièce musicale avait été créée, je crois, pour le premier film. Il y a un clin d'œil à ça dans ce film-ci. Maintenant, je ne veux pas trop m'attarder sur ce film-là parce que c'est pas un film avec un fort contenu. Hein. C'est un film qui nous fait revivre. C'est lent, mais ça nous fait revivre des émotions d'autrefois. Ça nous fait nous promener dans les souvenirs, dans l'évolution des personnages, le vieillissement des personnages. On n'est pas vraiment dans une histoire construite ou complexe. Il n'y a pas d'intrigue vraiment dans ce film-là. C'est plus un film... C'est dommage, ou c'est un film de nostalgie, ou ouais. Un film de continuation par rapport à l'autre film. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Ce que je veux vous dire, c'est que je trouve ça assez intéressant de mentionner que, bon, d'abord, Claude Lelouch, en plus d'être réalisateur, est un grand, grand tripeux de voitures, hein, de courses automobiles. On le voit dans certains de ses films, mais il y a aussi... introduit les images dans ce film-ci, les images qui proviennent d'un court-métrage qui a tourné en 1976 où, en fait, il avait mis une caméra sur le devant de sa voiture et on le voit traverser la ville de Paris à toute vitesse à 5h30 du matin. on le voit, il brûle des feux rouges, il se faufile entre les voitures, c'est complètement illégal, il n'y avait pas l'autorisation de faire ça, là. La police ne l'a jamais attrapé. J'imagine qu'à cette heure-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et honnêtement, je me souviens de tomber en bas de ma chaise en voyant ce court-métrage-là à l'époque. Il y a quelques, peut-être 5 ou 6 ans, là, mon ancien collègue de radio, Robert Dubois, m'avait montré ça sur YouTube et ça m'avait vraiment impressionné. Et il y a des moments où Claude Lelouch roule à 200 km à l'heure là, dans Paris. C'est assez phénoménal. Oui, puis, il est dans sa Mercedes. Là, puis, en tout cas, c'est assez incroyable. C'est trouvable sur Internet si vous voulez voir ce court-métrage-là. Sinon, point intéressant à dire là-dessus, il y a des moments... en fait, le défi de ça, c'était de se rendre à destination avant de manquer de pellicule. Parce que une bobine de 35 mm, c'était court. Donc, il fallait vraiment, il n'y a pas la chance de faire une deuxième
prise.
C'est pour
ça qu'il fallait roule à 200 km/h des fois.
Oui, puis même, on raconte, il y a un article Wikipédia complet sur ce moment-là. Il raconte qu'à un moment donné, il y a un camion de livraison qui est allé se mettre à une mauvaise place. Il est obligé de changer son itinéraire en temps réel. Wow. Il avait évidemment préparé son itinéraire. Donc, tout ça est passionnant. Et ils ont intégré ces images-là en grande partie, là. Même pas quelques minutes. Là. Ils ont intégré presque l'entièreté du court-métrage à travers le film Les plus belles années d'une vie. Donc ça, pour étayer des choses, pour donner un... je ne sais pas jusqu'où c'est réussi ce mélange-là, mais je pense qu'il s'est fait plaisir à enfin envoyer au grand écran ce moment-là assez atypique de sa vie. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des amendes, mais on peut se dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ferait ça se ramasserait en prison assez vite. Donc voilà, à part les chars, hein, comme pour le premier film, c'est un film sur l'amour, c'est un film dans ce cas-ci aussi sur le vieillissement, sur les retrouvailles. C'est touchant à voir, c'est très bon, mais je dirais que ça s'adresse vraiment à un public qui a vu le premier film, donc un homme et une femme. Quelqu'un qui n'a pas vu ça, à mon avis, trouverait ça probablement assez vide et long, parce que ce film-là s'appuie complètement sur le film de 1966. Voilà, et sur le temps qui s'est passé entre les deux films. C'est pas mal ça la force du film.
Mais dis-moi, Jim, parce qu'on voit des extraits de l'ancien film dans le nouveau film.
Oui, il y a des extraits, mais il y a ça dans tous ces films.
Mais
ils sont en noir et blanc. Ça, encore là, c'est un peu particulier. Tout d'abord, le premier film n'était pas en noir et blanc. Alors, on va dire ça comme ça.
Okay.
Il n'était pas entièrement en noir et blanc. En fait, je dirais qu'il n'était pas du tout en noir et blanc. Il était parfois dans des teintes désaturées, dans les scènes qui se passent en voiture notamment. Il y a un entrecoupage de scènes où on parle du passé et des scènes du présent. Et dans le film de 1966, les scènes du présent sont presque monochrome, mais ne sont pas tout à fait monochrome, alors que les scènes du passé sont en couleur.
Okay.
Ça, c'est le cas pour les scènes, pour le film de 1966. Maintenant, dans ce film-ci, évidemment, on s'amuse beaucoup à les récupérer, à les repiger dans des moments clés, des moments très, très, très cultes du film, et de les récupérer, évidemment, si c'était de cette façon-là, on l'a gardé la même couleur. Mais c'est ça. Alors oui, effectivement, ça fait étrange, mais d'un autre côté, c'est un film sur cette rencontre-là. mais 50 ans après. Donc, c'est normal. Donc, ça passe assez bien. Là, ça. Que les images soient un peu vieillottes, ça passe tout à fait. Mm-hmm. C'est pas vraiment un problème. Beaucoup de fondus aussi, des choses comme ça, là, pour essayer de mélanger les deux époques. Mm-hmm. Là. On joue beaucoup avec ça dans ce film-là.
C'est intéressant parce que c'est rare qu'on voit ça.
Oui, c'est-à-dire... Un film comme ça, qui s'appuie sur l'ancien film avec les mêmes acteurs, ouais. c'est avec 50 ans de distance, ça, c'est ouais. assez incroyable. Ça, c'est assez incroyable, effectivement.
C'est
donc, je lui donne un 7,5 sur 10, donc au film Les plus belles années d'une vie. J'aurais donné un 9 à Un homme et une femme, si je le critiquais aujourd'hui. Malgré son âge vénérable, là, la vérité, c'est que je l'ai vu la semaine avant. Je l'ai revu, puis j'ai regardé même le deuxième pour me mettre dans le bain, pour me mettre dans l'ambiance. Et c'est ce qui fait que j'ai autant apprécié ce film-là. Comme je vous ai dit, si vous êtes un fan du premier film, Un homme et une femme, allez voir ce film-là, vous allez vraiment vous plaire. Maintenant, si vous n'êtes pas un fan ou si vous ne l'avez pas vu, ben, allez voir le premier film à la place, c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà. Mais c'est une belle complétion, c'est une belle finitude.
Oui.
C'est une belle fin de cet univers-là, puis on va se dire, il n'y en aura pas un troisième, il n'y en aura pas un quatrième. Là.
Mm-hmm.
Donc, ces gens-là ont beaucoup vieilli, puis c'est déjà miraculeux qu'on ait réussi à aller faire ce film-là. Donc, voilà.
Super.
C'était donc le film Les plus belles années d'une vie. Alors, voilà. Merci. Et François, de ton côté, tu es resté confortablement dans ton salon.
Oui.
Et tu as regardé Netflix.
Oui, exactement. J'ai regardé...
Je comprends ça.
L'alchimie de Noël. The Night Before Christmas. Et je le dis en anglais, pourquoi? Parce que c'est un très bon jeu de mots en anglais, tandis que le titre en français est un petit peu bizarre. En fait, non, mais parce
comme c'est souvent le cas. Hein?
Oui, parce que là, les gens qui ils disent A Night Before Christmas.
Une nuit avant Noël.
Mais non, c'est un double sens. Oui, une nuit avant Noël, mais c'est un night avec un K, donc comme un chevalier avant Noël.
Alors, l'alchimie.
L'alchimie de Noël, je pense qu'ils l'ont juste échappé, là, en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui dort. pour les titres français. Alors, dans le fond, moi, j'ai regardé ça, j'ai regardé le titre, et dès les premières images, je me suis dit, mon doux, ça, là, ça va être l'histoire d'un chevalier qui remonte dans le temps, qui revient aux États-Unis, puis qui doit classique. Faire de quoi avant Noël. T'sais.
Pour vrai? Tu t'es dit ça tout de suite?
Je me suis dit ça. Déjà, les premières images, j'ai fait, mon doux, ça a l'air d'un film qu'on remonte dans le temps.
Parce et puis,
que c'est exactement ça. c'est juste, je pensais que.
C'est prévisible, non?
Ben oui, c'est ça. Je pensais que ça allait être à New York, par exemple, mais là, ils ont changé d'état. Fait que, Colin, là, c'est là la surprise, tu comprends? C'est...
Voilà.
on se laisse surprendre où qu'on peut. Alors, réalisation Monica Mitchell et sinon, des acteurs quand même connus, Vanessa Hudgens et Josh Whitehouse, qui étaient entre autres, qui font entre autres partie de la distribution. C'est un film assez...
C'est la fille de High School Musical.
Oui, tout à fait, exactement, qui a été connue par High School Musical.
Oui, je sais que toi aussi, Jim, ça...
C'est pas ma génération.
Non tout à fait, je pense pas. Alors, c'est une professeure, dans le fond, une professeure qui est un petit peu désillusionnée par l'amour et qui rencontre un chevalier... médiéval, évidemment, parce que c'est un chevalier anglais qui retourne dans le temps et qui, ils vont évidemment tomber en amour. Et voilà. Alors, cette rencontre féerique et magique qu'on suit dans ce film. Alors, on va tout de suite aller écouter...
Bien sûr.
La bande-annonce.
Est-ce que ça va?
N'ayez crainte. J'ai été désarçonné plus brutalement et par des montures plus rapides que votre destrier d'acier.
Il n'a pas une égratignure. Mais apparemment, il se prend pour un chevalier du XIVe siècle.
Messire Cole Christopher Frederick Lyons de Norwich, pour vous servir.
Oh, purée.
C'est entièrement ma faute. Je vais l'aider jusqu'à ce qu'il retrouve la mémoire.
Et s'il est dangereux?
Tu peux me croire, il est inoffensif. Pour commencer, je pense qu'on devrait mettre à jour votre garde-robe d'au moins quelques siècles.
Bonsoir.
Bonsoir. Je vous laisse vous habiller.
Et quand même.
Ben voilà.
Alors, oui, c'est quoi ce film-là? Ben écoute, on a déjà parlé un petit peu de tout ce qui était le film en soi. Alors,
carrément.
Ben oui, un petit peu. Il n'y a pas beaucoup nécessairement de grandes surprises dans ce film-là au niveau du scénario, là, on va se le dire. c'est le film traditionnel. T'sais, c'est pas parce que c'est un Netflix original que c'est nécessairement original, Netflix. Il va falloir qu'il...
C'est d'ailleurs, il était sur une bonne lancée, là. C'est un peu décevant, là.
Oui. Non, mais hein, il faut en avoir de...
Non, mais ils produisent différents types, là, de quand même, de contenu. Tout à fait.
Ouais. Ben, c'est, on retrouve exactement les mêmes codes qu'on retrouve dans tous les films de voyage dans le temps. c'est exactement les mêmes affaires. Évidemment, le côté « Oh mon doux, telle affaire que je... Oh mon doux, des gens qui prennent des selfies. Oh mon doux... tu sais, toute la technologie. Oh mon doux, je m'émerveille face à ça. » Est-ce que... non, mais est-ce que c'est nécessairement mauvais? Pas nécessairement, tu sais. C'est toujours intéressant à voir. Est-ce que c'est vraiment différent de d'autres films? Non. Ben la formule, elle est là, est claire. On sait exactement ce qui va se passer. On sait que ça va être le gars encore qui va aller à l'épicerie puis qui va comme se battre avec du pain. Je veux dire, tu sais, c'est un petit peu... Non, mais c'est ça. T'sais, on sait exactement qu'on s'en va. On va pas là pour se faire surprendre, tu sais. Après ça, est-ce que c'est nécessairement un mauvais film? Non, pas nécessairement. Tu coupes des carottes.
Mais ça t'a pas surpris.
Tu fais quelque chose.
Non, mais. Tu les patates en regardant le film.
Tu sais, ça prend des films aussi plus légers où tu te mets ton cerveau à off. Tu te dis, écoute, j'ai déjà vu ces affaires-là. Ça va pas nécessairement me surprendre. Mais c'est dans un environnement un petit peu différent. Des thèmes sont un petit peu différents. C'est correct. Je me ferai pas surprendre. Puis j'essayerai pas de deviner c'est quoi la fin du film parce que sinon je vais être déçu. Puis je vais mettre le doigt dessus. T'sais. Fait que. Laisse-toi aller, tu sais. Là où je me suis un petit peu trouvé... Ce que ça m'a un petit peu tiraillé, c'est les placements de produits, des fois, qu'on fait dans ce genre de film-là,
des fois.
Ben, bon, évidemment, supposément qu'on m'a dit... Moi, j'ai pas vu, mais qu'il y avait beaucoup de les images, que c'était des Netflix Originals aussi. Bon, okay. Là, c'est de bonne guerre, rendu là, c'est leur propre contenu. Mais après ça, quand on place, mettons, Alexa d'Amazon pour qu'il ait l'assistant, le petit intelligence artificielle assistant d'Amazon...
Est-ce qu'on doit craindre qu'Amazon achète Netflix?
Non, mais là, tu dis, bon, OK, mais tu sais, dans le temps, on avait des pots de ketchup avec la marque dessus, c'était pas trans subtil.
Dans le temps, le comédien arrêtait de jouer et parlait à la caméra pour vendre le produit.
Ben, exactement, c'est ça. Oui. Fait que j'ai juste peur des fois que dans ce genre de film-là, qu'on revienne à ce genre de méthode-là. Sinon, écoute, petit film tranquille, c'est sûr que si tu vois juste un film dans ton année, peut-être pas celui-là, groupe. C'est peut-être pas celui-là qu'il faut voir.
Bon, mais si ça ne sera pas dans ton top de l'année 2019.
Non. Okay. Mais c'est un film tranquille qui se voit bien, entouré de gens le fun. Tu prends ça tranquille. Tu n'as pas le goût de faire quelque chose de trop compliqué. Ben, ça peut être un petit film. 6.5. Bon. C'est correct. Pas c'est jouable. Il y a des beaux petits moments. Prévisible. Bon. Mais c'est bien sinon.
Ben, merci, François. Ça donne envie de presque
pas
envie de le voir.
Ben écoute, il y a des beaux petits moments quand même. Là, je veux dire, faut pas se leurrer. Hein?
On se leurre pas, mais on pleure pas. Hein? Exactement. On se met les deux.
Exactement. Bon. Mais ça nous met tout doucement dans le petit côté féerique de Noël, Jim.
Ben exactement. Et pour les quelques minutes qui nous restent avant la fin de cette demi-heure, en fait, je prends quelques minutes pour vous dire que, bon, hein, pour une 30e année consécutive, Ciné Cadeau est de retour à Télé-Québec.
Ah, wow! Et donc, ça nous met dans la féerie de Noël.
Ben oui, tout à fait. Donc, c'est juste pour vous dire si vous voulez. Ça commence aujourd'hui, en fait, le 14, jusqu'au 5 janvier. Trois plages horaires, 9h, 15h30 et 18h30. Pour ton information, François, Astérix chez les Bretons, c'est lundi à 18h30.
Oh, écoute, je vais mettre ça dans mon agenda.
Oui, sinon, ça rejoue deux fois, là, fait qu'il n'y a pas de stress.
je vais le regarder trois fois, ça. Finalement.
Non, exact. Sinon, au cinéma, sortie à ne pas manquer, ou en tout cas, selon vos goûts, Star Wars épisode 9, qui sera disponible très bientôt. Sinon, bon, c'est la grande conclusion de la saga, tout ça. Sinon, aussi, Magali Lépine-Blondeau et Julie Perrault dans le rôle...
Oui.
Aussi, merci pour tout, c'est ça?
Merci
c'est
pour
ça,
tout. Bref. Oui, sinon, où elle chante.
Oui, c'est oui. Ça oui. Semble intéressant. Et sinon, Playmobil qui vient concurrencer Lego sera disponible pour ça. Yeah. Et c'est un grand jour aujourd'hui, Mélina. depuis plusieurs semaines, prépare son...
Mais quand même, faut pas exagérer. Non, pas depuis plusieurs semaines, mais... Pardon?
Depuis plusieurs minutes?
Depuis plusieurs minutes, c'est ça, depuis environ 5 minutes, depuis la pause. En fait.
Un grand dossier nous attend.
Voilà. c'est que j'ai écouté le film Netflix, le film The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese.
Mais oui, parce que ce qui est en soi, un dossier en soi, parce que c'est long, c'est quand même long, c'est 3 heures et combien?
3h30.
3h30, quand même.
Mais je veux dire, quand...
Au moins, tu peux faire une pause.
Oui, mais Scorsese n'a jamais fait des films courts non plus. Je veux dire, ses autres films sont autour de 3 heures. Tout le monde est comme, ce film-là est 3 heures et demie. Oui, mais si tu y penses vraiment,
c'est une demi-heure de plus.
C'est dans ses habitudes.
Il pourrait faire des Marvel, quand même. Mais bon, rentrons pas là-dedans.
Ah non,
mais... Oui, c'est ça, on rentrera pas là.
Donc, tu veux nous parler du film The Irishman.
Exactement.
Oui.
C'est ça, le film The Irishman, qui est un projet qui est en développement depuis quand même 2007. Donc, ça fait 12 ans.
Il peut bien faire 3h30,
oui,
OK.
Oui, ben c'est ça. Et ça, c'est la version finale qui fait 3h30. Comme on sait, le rough est pas mal plus long que ça. Donc, c'est un film qui est développé depuis 2007 et qui est basé sur un livre. Le livre qui s'appelle « I Heard You Paint Houses » de Charles Brent, qui raconte quand même une histoire vraie. Donc, on parle de mafia italienne, on parle de syndicats, on parle de camionneurs. Mm-hmm. C'est un peu ça le contexte. Avant de rentrer plus dans le film, par exemple, j'ai envie de vous parler de certains points techniques qui sont quand même super importants parce qu'ils ont attendu 12 ans pour faire ce film-là et ils ont finalement réussi à... Il y a des raisons pour lesquelles ils attendaient. Et la raison, c'est que les personnages, on veut les voir sur une très longue période de temps et finalement, ils ont réussi à faire des VFX pour rajeunir les acteurs. Donc, on va entre 24 ans et 80 ans pour, par exemple, Robert De Niro et tous ces acteurs-là, parce qu'on veut les voir sur une longue période. Et ça, c'est nouveau comme technique.
Oui. Alors, c'est déjà populaire, hein? C'est drôle.
Oui, mais ben définitivement, ça? C'est déjà populaire. Mais c'est même... Et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, parce que un acteur de, par exemple, 70 ans a son corps se comporte aussi comme quelqu'un de 70 ans.
C'est pas que le visage, là.
Non, ça va dans la façon de te lever d'un divan. Tu te lèves pas de la même façon à 70 ans que tu te lèves à 25 ans.
Ça dépend des jours, mais bon, ça, c'est...
Des jours de 25 que tu te lèves comme 70, mais...
Il y a des jours.
Mais c'est ça. Alors, ils ont fait des tests pour voir ça. Ils ont fait des tests, ils ont testé De Niro pour faire une scène de 25 ans, pour refaire une scène de Goodfellas, pour comparer les deux, pour voir à quel point c'était réaliste. Ils ont engagé des coachs de posture pour s'assurer d'être réaliste.
Pour recréer la posture d'antan.
Oui, c'est ça.
Rendu là un film d'animation, c'est plus simple de juste essayer de faire un film d'animation.
Vraiment, ils ont tous eu un coup de jeune quand ils sont sortis du coaching. Moi.
Oui, mais peut-être.
Probablement. Donc ça, déjà, là, c'est un point fort. C'est sûr que si on fixe et on porte attention là-dedans, on voit que, bon, OK, c'est clairement pas...
Il y a un petit quelque chose.
Oui,
là.
De Niro... C'est pas le même De Niro que quand tu regardes Taxi Driver puis que là, il y a pour vrai, il est extrêmement jeune.
Ouais, ouais, ouais.
On voit quand même.
Moins de mouvement, peut-être, mais pour que ça soit plus facile.
Mais on l'accepte.
Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir ça que d'avoir, justement, de dire, des fois, on prend un autre acteur qui y ressemble?
Définitivement, parce que le problème, quand on prend un autre acteur qui y ressemble, c'est qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, de sauter une longue période pour faire passer. C'est-à-dire, on va prendre un enfant acteur, on va en prendre un autre adolescent, on essaie de laisser passer quelques années pour que le cerveau accepte un peu. C'est ça, la différence.
Ouais, ouais.
Donc, dans ce cas-ci...
Mais là, est-ce qu'on suit vraiment beaucoup d'étapes?
Non, parce que c'est fait sous forme de flashback. Donc, on a le vieux Frank Sheeran dans sa maison de retraite, âgé de 80 ans, qui se remémore des souvenirs. Mais on y va quand même dans la chronologie, mais on revient aussi.
Fait qu'on a vieilli les acteurs pour les scènes plus récentes, et on a rajeuni ces mêmes acteurs-là pour les scènes plus anciennes.
C'est ça qui est phénoménal dans le film.
L'acteur est entre les deux.
Exactement. Fait qu'au
final, mais je trouve qu'Al Pacino avait l'air vraiment trop vieux dans cette histoire-là.
Mais c'est ça qui se passe. Mais De Niro aussi, là, quand
est-ce qu'il y a des moments qui sont naturels? Peut-être.
Probablement, sûrement quand il joue plus dans les 60 ou des choses comme ça.
Ouais.
Mais déjà ça, c'est un changement super intéressant pour ça. Sinon, autre fait intéressant, c'est quand même la première collaboration entre Martin Scorsese et Al Pacino. Donc ça, c'est intéressant parce que...
Pourtant, ils ont toujours joué dans des... Ils ont toujours soit fait ou joué dans des films de ce genre-là.
Quand même, exactement.
C'est quand même
intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ils ont eu une tentative de projet à une certaine époque. Ça n'a pas fonctionné faute de financement. Donc là, ils se découvrent pour la première fois. Alors que Robert De Niro, c'est sa 9e collaboration avec Scorsese. Et Joe Pesci, je pense que c'est sa 4e. Donc ça rend ça intéressant parce que... Quand on étudie un peu Scorsese, on se rend compte que depuis le début, depuis que 20 ans, depuis ses premiers films, il travaille avec Robert De Niro. Donc, je l'ai dit, 9 collaborations. Et on va même souvent dire que De Niro, c'est un peu comme l'alter ego de Scorsese à l'écran. Dans le sens que Scorsese réalise... Mais exactement, il sort de lui un peu pour se représenter. Mm-hmm. Ils viennent tous deux de New York, des quartiers italiens, se sont rencontrés jeunes. Ils ont évolué là-dedans ensemble, autant dans le fame, j'ai envie de dire, que dans les techniques, dans le cinéma, tout ça. Et le dernier film qu'il avait fait remonte à Casino en 1995. Donc, on a quand même un espace 20 ans sans collaboration. Ça, c'est intéressant aussi qu'il se retrouve. Et on dit que De Niro est la personne qui a beaucoup poussé pour faire ce projet-là. Parce que Joe Pesci voulait absolument rien savoir de faire ce film-là parce qu'il a pris sa, il avait pris sa retraite. Il voulait rien savoir. Puis c'est De Niro qui l'a convaincu, finalement. Donc, on a, en allant le voir, en disant « Non, regarde, c'est peut-être la dernière fois qu'on peut faire un film comme ça. » Parce qu'ils en ont fait plusieurs des films comme ça. Mais c'est peut-être la dernière fois qu'on peut faire un film comme ça. Puis là, avec Al Pacino. Donc, il l'a convaincu. Donc, on a un film où les acteurs principaux sont investis dedans. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, ça fait toute la différence.
C'est clair. Ouais, mais c'est pas le genre de film que tu fais un casting pour les personnages principaux, là, mettons. C'est...
Non, c'est
il
ça.
Va, il va choisir son monde, puis...
Oui. Oh, oui, c'est ça.
Puis tu le sens que c'est un projet de famille aussi, ouais, puis ça devient méta un peu, parce qu'on parle de ça, puis c'est un peu ça aussi peut-être qui se joue de derrière l'écran, tu sais.
Al Pacino, ça a toujours été le symbole du mafieux.
Ben oui, avec le parrain.
Le parrain avec Scarface, avec un paquet d'affaires.
Exactement.
Ça a toujours été le personnage.
De Niro à la base aussi, mais il s'est éloigné dans les dernières années. Il a fait des comédies romantiques, puis des choses comme des comédies, mais définitivement, oui.
Puis même dans le film, là, avec, comment ça s'appelle, le policier infiltré, là, j'ai oublié le nom.
Donnie Brasco.
Pacino est aussi dans ce film-là.
Oui, définitivement.
C'est le symbole. Quand tu veux faire un film de mafieux, tu penses tout de suite à Al Pacino. Il est très, très, très bon là-dedans, mais c'est vraiment qui puisse être mis dans ce film-là.
Exactement. Là, tu as les trois ensemble.
Ben oui.
C'est fantastique. Ouais. Avant de parler plus du film, un dernier point qui est super intéressant de noter, c'est que ce film-là, c'est une production de Netflix. Mais il est quand même sorti dans des cinémas parce que là, Scorsese tenait à ce que ça sorte dans des cinémas. Donc, lui, il a ouvert le dialogue avec les cinémas. Les cinémas étaient déjà beaucoup plus ouverts qu'à l'époque où Netflix a essayé d'amener Roma dans les cinémas et que ça l'a pas passé. Les cinémas,
Night
je pense...
Before
aussi
Christmas.
Que c'est Scorsese aussi.
Ouais.
Là, ça, c'est
ils ont peut-être pas essayé avec Night Before Christmas.
Non, définitivement pas, mais c'est que je pense qu'ils l'ont peut-être regretté aussi, Roma, vu le succès que ça a eu après ça par la suite aux Oscars.
Ben, Netflix a fait ses preuves quand même avec des productions. Puis on s'entend que c'est une production qui doit avoir un gros budget. Là,
définitivement, on s'entend. Ben, surtout juste, la technique de VFX, de rajeunissement, ça coûte une fortune.
Je pense que déjà, là, sont plus ouverts.
Puis ils filment tout le temps à trois caméras pour pouvoir avoir les angles pour les VFX. Donc, les coûts montent très, très vite, surtout en termes de VFX. Donc là, la discussion s'est ouverte. Mais là, les grandes chaînes de cinéma, Cinéplex et toutes ces chaînes-là, voulaient que Netflix s'engage à respecter le délai qui est habituellement de 60 jours entre la sortie en salle et la sortie en streaming, en DVD ou en choses comme ça. Là, Netflix a dit non. On dit on peut vous laisser deux semaines. Et c'est ce qu'ils ont fait finalement dans les autres cinémas indépendants, mais pas 60 jours. Donc, le film n'a pas été diffusé dans les grandes salles de cinéma, mais il a quand même été diffusé dans 500 cinémas indépendants aux États-Unis.
OK. Assez quand même pour aller rejoindre un public peut-être un peu plus recherché. Là.
C'est quand même
pas un public qui va voir Marvel, mettons, là, selon Scorsese.
C'est ça, exactement. Tu sais. Et ça leur permet aussi d'être en nomination dans les festivals et tout ça. Mais ça l'ouvre tranquillement, on ouvre les portes à une espèce de convergence de tout ça. Mais Netflix tient quand même, c'est quand même une production qu'eux, ils font.
Oui, c'est sûr qu'ils veulent que leur auditoire en bénéficie là, en primaire.
Définitivement. Puis ils ont même fait un autre document de 30 minutes qui est une conversation entre les quatre. Donc entre Scorsese, Al Pacino, De Niro et Joe Pesci, ils parlent les quatre ensemble. Et
à propos du film?
À propos du film, à propos de leur collaboration, parce que... Et c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'Al Pacino agit un peu là-dedans comme je dirais l'intervieweur, mais c'est pas nécessairement vrai parce que c'est juste une conversation entre les quatre, mais comme lui est moins proche, il initie les questions. Donc, je sais que vous vous connaissez depuis longtemps. Oui, ça fait 50 ans qu'on se connaît. Il rentre lui, tu vois que... Fait que ça, c'est intéressant aussi de voir ça. C'est super intéressant parce que ça donne des bons points sur le film. Ça permet de mieux comprendre le film. Parce que là, on va rentrer dans le film.
Ooh.
Et parce que là, ça, c'était juste comme pour mettre la préparation de petits trucs qui se passent avant le film que je trouvais intéressant à parler.
Ben oui, ben déjà, ça nous l'a vu voir le film.
C'est vrai?
Oui.
Oui.
Bon, ben on va y aller tout de suite dans le résumé du film.
Bon. Hein?
Alors, je me lance. Cette saga sur le crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre est racontée du point de vue de Frank Sheeran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, devenu escroc et tueur à gages, ayant travaillé aux côtés de quelques-unes des plus grandes figures du 20e siècle. Couvrant plusieurs décennies, le film relate l'un des mystères insondables de l'histoire des États-Unis, la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Il offre également une plongée monumentale dans les arcanes de la mafia en révélant ses rouages, ses luttes internes et ses liens avec le monde politique.
Ouh, quand même.
Donc, super intéressant parce que, comme je le mentionnais tantôt un peu, c'est basé sur un livre.
Oui,
et sur des faits réels, qui est vraiment cette histoire-là. Donc, pour ça, c'est super intéressant. Et, petite note avant de commencer, ce qui m'a beaucoup aidée, en fait, c'est d'aller lire sur l'histoire de Frank Sheeran avant d'écouter le film.
Ah oui, avant d'écouter.
Ben, c'est-à-dire, j'ai commencé à l'écouter, puis c'est que Scorsese est très bon pour jouer avec le rythme. Le rythme, c'est vraiment une des forces de ce film-là. Mais quand c'est pas non plus qu'il prend pour acquis qu'on connaît cette histoire-là. C'est juste que quand il y a un esprit qui veut vraiment bien comprendre le mien, le film, comme c'était comme mon esprit à ce moment-là.
On essaie de comprendre le tien déjà, là.
Ah oui, c'est ça. Restez avec moi, ça s'en vient. Donc, j'ai préféré aller lire pour vraiment comprendre ce qui se passait et aller chercher toutes les nuances et aller vraiment comprendre pour pouvoir en faire également une analyse cinématographique et non pas juste une compréhension de cette histoire-là avec laquelle j'étais pas familière. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré aller lire sur cette histoire-là parce qu'on couvre très long. C'est 3h30, mais on couvre une très longue époque. Et c'est de la mafia, c'est des liens entre différentes personnes et c'est très gros. Je veux dire, on voit Robert Kennedy à plusieurs reprises dans le film parce qu'il était procureur à cette époque-là. Et lui a décidé à un moment donné qu'il se mettait sur le cas de Jimmy Hoffa et de la mafia et tout ça. Donc, on voit ça à plusieurs reprises. Donc, ça a des implications. On voit l'élection de John F. Kennedy, on voit son assassinat, tout ça. On dit pas clairement que la mafia a des liens avec ça, mais en même temps, on le sous-entend. Donc, il y a des cues à catcher dans ce film-là qui, même s'ils sont pas nécessairement ce qui s'est vraiment passé, c'est super intéressant de connaître l'histoire parce que tu vas pogner tous ces détails-là. Et jusqu'à ce jour, on sait pas qui a tué Jimmy Hoffa. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'on a une réponse dans le film qui est phénoménale.
Qui est probablement plausible, mais on ne doit pas affirmer que c'est vraiment ça qui s'est passé, mais ça doit être une thèse qui se tient, là, si on met ça là.
Exactement. Ouais. Donc, le film, je vous dirais, on parle beaucoup que c'est un film de mafia. C'est pas mal ça, comme plusieurs des films de Scorsese. On dit, ah oui, on explore la mafia, tout ça, mais je vous dirais, même plus que ça, ce film-là aborde le concept du bien et du mal. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on voit quelqu'un qui se rappelle ce qui s'est passé et qui peut-être un questionnement différent sur les choix, sur les décisions qu'il a prises, parce que, dans le fond, De Niro, qui joue le rôle de l'Irlandais Frank Sheeran, agit un peu comme tueur à gages pour la mafia, c'est-à-dire il leur donne des commissions puis des choses comme ça, et lui va exécuter des gens. Donc, c'est là qu'on vient chercher un peu par la suite la réflexion du bien et du mal, mais c'est surtout que ce film-là passe les trois premières heures à te raconter une situation, puis à vraiment rentrer dans le côté la mafia, tout ça, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, les 30 dernières minutes, tu te rends compte que ce film-là, c'est beaucoup plus psychologique que qu'est-ce que tu pensais. Donc, on prend 3 heures pour mettre la table pour les 30 dernières minutes qui font juste un peu comme exploser ton cerveau, juste comme c'est fantastique, c'est phénoménal ce film-là pour ça, parce que c'est un long build-up que tu te rends même pas compte que c'est un build-up. Fait que quand ça arrive, tu dis waouh, c'est là qu'on m'amenait. Moi, je pensais qu'on m'amenait complètement à 180 degrés de l'autre bord. Donc pour ça, c'est absolument fantastique. On va prendre une pause pour aller écouter la bande-annonce film.
On a tous envie d'entendre ce que ça sonne.
Exactement.
Frank Sheeran, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Selon votre contrat, le management ne peut licencier un chauffeur qu'en cas de faute lourde. Alors, vous êtes parfois en retard?
Non.
Des infractions au code de la route?
Non.
Vous buvez au travail?
Non.
Vous n'avez frappé personne?
Au travail?
Oui.
J'ai pas l'impression.
Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas à nous en faire. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino.
Comment ça va?
Salut, enchanté.
C'était comme à l'armée. Si on suivait les ordres, si on faisait ce qu'il fallait, on était récompensés.
Alors voilà la bande-annonce donc du film The Irishman.
Exactement, de Martin Scorsese. Donc je pense que pour ceux qui ont écouté la première partie où je présentais le film, vous avez probablement deviné que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Je ne sais pas si ça transparaissait dans mon enthousiasme.
Quand tu as dit quand même, ça fait exploser mon cerveau, moi je me suis dit tout de suite, c'est sûr que...
Ça paraît pas. Moi je me suis dit, ça paraît pas. Mais ça a l'air très très bien.
C'est très très bien comme film.
Ça a l'air assez intense, oui, comme film.
Oui, c'est très très intense et tous les points forts de Martin Scorsese en termes de réalisateur sont des points forts de ce film-là que je n'ai même pas abordé. C'est-à-dire que c'est quand même considéré comme un très grand réalisateur et c'est pas pour rien, dans le sens qu'il y a des techniques qui sont bien à lui, il y a des points forts qui sont extrêmement forts qu'on retrouve dans ce film-là. En plus de ce que je vous parlais du build-up, que tu te rends pas compte du build-up, tout ça fait en sorte qu'on a un film qui est intelligent, qui est vraiment extraordinaire, puis qui vaut la peine d'être voir, puis qui, je pense, qui vraiment vient être un peu comme une cerise sur un sundae des films que Scorsese a fait dans sa carrière en tant que réalisateur. Donc, je vais lui donner tout de suite une note. J'y donne la note de 9 sur 10. Donc, vraiment, coup de maître pour ce film-là.
Coup de cœur pour toi, oui.
Gros coup de cœur pour moi, pour plusieurs raisons. Et plus je pense à ce film-là, plus c'est un film qui me fait triper. Mm-hmm. Plus je l'analyse, plus ça me fait triper. Donc, vraiment, plusieurs niveaux, beaucoup de matière, très intelligent. Et vraiment, qui va chercher dans les points forts de Scorsese, et sur lesquels je vais élaborer un peu plus maintenant. Mais pour ça, je pense que c'est intéressant un peu de parler de Scorsese en tant que tel, comme réalisateur, comme personne. D'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, des choses comme ça.
Quel est son nom?
Martin Scorsese. Martin. Il est né en 1942 à New York, de parents d'origine sicilienne, donc Italie. Hein? Voilà. Oui, oui, oui. On comprend un peu ensuite d'où son œuvre, certains films, bon voilà. Donc d'origine italienne, italo-américaine. On dit que quand il était jeune, il est extrêmement religieux et même qu'il entre au séminaire à l'âge de 14 ans afin d'être ordonné prêtre. Mais il va être finalement renvoyé après un an parce qu'on juge qu'il est trop jeune. Et c'est intéressant, je dis ça quand même, ça a une raison, parce que cette conception manichéenne-là, un peu de la vie, du bien, du mal, de cette dualité-là, est un thème qu'on peut sentir dans ses films, sans pour autant aller dans cette intensité-là que tu avais ressentie avec le film A Wrinkle in Time, je me souviens pas, d'Ava DuVernay.
Moi, je me souviens que j'ai pas beaucoup aimé, oui.
Je me souviens que ce côté religieux-là était venu, cette notion-là du bien, du mal, du point de vue religieux, était venu te déranger de façon, façon profonde.
Oui, mais c'était pas assumé, je trouvais. Mais...
Non, c'est ça. Mais dans les films de Scorsese, c'est pas du tout comme ça qu'on ressent ça, mais on peut ressentir ça des fois à certains moments. Et je pense que c'est ça, on peut un peu dire que ça vient probablement de là, de sa jeunesse. Et ensuite, première œuvre acclamée, Mean Streets, qui est sa première collaboration avec De Niro. On a ensuite Taxi Driver en 76, autre film avec De Niro, qui va valoir une Palme d'Or à Cannes. Donc,
très gros hit.
Très, très définitivement, là, qui l'a mis sur place. Hein? Ouais. Le film Raging Bull en 1980, avec De Niro encore, mais là, cette fois-ci, un film sur un boxeur, Jake LaMotta. Ensuite, Goodfellas en 90. Et la liste continue de ses hits parce que c'est beaucoup de grands films. Intéressant aussi, c'est un tripeux de musique. Il a fait des documentaires, d'excellents documentaires sur des musiciens. Donc, un sur Bob Dylan, un sur Channel Light, qui est un concert des Rolling Stones, sur George Harrison. Et il sort, en fait, il y a un nouveau documentaire aussi qui est sorti sur Netflix sur Bob Dylan. Donc, un tripeux de musique, ça se ressent dans ses films de rock'n'roll très, très, très présent. Et même, on va revenir parce que, pour moi, c'est quelque chose... Mais on va parler maintenant, en fait, de l'importance du rock'n'roll dans les films de Scorsese. Je me suis notée, en fait, la phrase suivante. La musique, pour Scorsese, nourrit le récit plutôt que de l'habiller. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire que la musique, c'est pas quelque chose qu'on vient mettre au montage pour faire ressentir plus d'émotions. Mais on a vraiment l'impression que la musique vient inspirer la scène, vient nourrir la réalisation. J'ai lu qu'il y avait tendance beaucoup à écouter des chansons
pendant qu'il
travaillait sur ses scénarios et que déjà ça teinte sa vision de la réalisation. Et même que ça peut y arriver de mettre, si c'est déjà la chanson pour laquelle il va choisir, ça peut y arriver de la mettre lors du tournage.
Lors du jeu, OK.
Pour que ça fonctionne avec la musique. Parce qu'en tant que musicien, en tant que danseur, c'est des choses qui peuvent déranger.
C'est un défi technique, là, mais c'est très intéressant. Ouais.
Mais oui, donc vraiment, la musique très importante. Ensuite, je vous dirais, au niveau technique, très, très fort sur les mouvements de caméra. Mouvements de caméra que, si tu n'analyses pas, tu ne te rends pas vraiment compte, mais c'est très, très fort. Et d'ailleurs, la première scène du film The Irishman, qui commence par un long traveling en avant avec une narration, oui. Long traveling sur De Niro, et à un moment donné, c'est plus la narration, c'est De Niro qui te parle. Au début, il te parle pas. Mais, oui. Et là, tu rentres dans le récit. Beaucoup de jeux comme ça, de jeux, on joue avec la technique. Ils jouent avec la technique. Ça, c'est phénoménal. Des freeze frames pour expliquer quelque chose. Une narration.
Ah oui, c'est quand même rare aujourd'hui qu'on utilise ça. Oui. Ça a été très utilisé dans les années 2000. Mais
il continue. Ouais. Narration freeze frame. En fait, je pense qu'on peut quand même sortir une recette un peu de Scorsese, de ce qu'il va faire. C'est très intelligent. Sa façon de mêler l'action, de mêler la musique, les mouvements de caméra et la narration. Et tout ça vient faire un tout, c'est-à-dire il va créer des moments très forts où on va avoir des moments de bataille, des moments de violence, ouais. Sur une musique rock joyeuse un peu en même temps, avec un ralenti. Puis là, tu regardes ça, puis ça te provoque toutes sortes de choses à l'intérieur parce que tu vois quelqu'un se faire tabasser, mais là, la musique, elle t'amène quelque chose d'autre. Mais en même temps, tu comprends ça d'une autre façon et c'est que ça fonctionne. C'est ça qui est phénoménal, c'est que ça fonctionne, c'est qu'on mélange plein d'ingrédients ensemble.
Cette dualité de la perception des acteurs,
oui,
des personnages versus la perception du spectateur.
Du spectateur.
Oui, c'est très intéressant.
C'est super intéressant, c'est vraiment tout le temps fait de main de maître. Mm-hmm. Et pour moi, The Irishman, c'est un peu le couronnement de ça, il y en a beaucoup, et tu regardes ça, puis tu ris, puis en même temps, tu te sens mal. Et ça, c'est fort. C'est fort pour un réalisateur de réussir à te faire ressentir plusieurs émotions en même temps. C'est vraiment une force qu'il a aussi. Et je dirais aussi que autre force de Scorsese, c'est sa capacité à montrer un environnement de façon crédible. Donc, il va montrer New York, il va montrer New York la nuit, il va montrer le milieu de la mafia. C'est extrêmement crédible et je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens l'aiment, parce que la psychologie des personnages dans ce milieu-là va être super crédible, leur personnalité, l'environnement, la représentation de la société aussi, tout ça est extrêmement crédible. Mais ensuite, on vient mettre là-dessus des techniques cinématographiques dont je parlais qui sont super originales et avec un storytelling aussi qui fonctionne toujours très bien, que ce soit au niveau du montage, au niveau de la narration, on réussit toujours à raconter l'histoire, à faire des variations de rythme de la façon dont on raconte l'histoire, mais pour pas perdre le spectateur, et qui fonctionne finalement. Mm-hmm. Donc c'est vraiment cette capacité-là à mettre tous ces ingrédients-là ensemble, à se renouveler, à pas faire tout le temps des films nécessairement sur la même chose, à pousser plus loin. Les gens y associent beaucoup Scorsese aux films de mafia, mais c'est beaucoup plus que ça, selon moi. C'est vraiment un réalisateur qui est amoureux du cinéma, qui est amoureux des films. Et tu vois, j'ai envie de terminer en disant, parce que récemment, j'ai vu le film Le Joker,
Oui.
Qui est sorti.
Ouais, ça, c'était quelque chose.
Qui était quelque chose. Et je me suis dit, j'aurais été curieuse de voir Scorsese réaliser ce film-là.
Ouais.
Parce que je sens qu'il nous l'aurait montré d'une façon complètement différente de ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu était très bien, d'ailleurs.
Mais en même temps, on a vu des techniques qui étaient exactement pareilles.
Exactement.
Avec la musique, par exemple, dans Joker.
Ouais. Ouais,
ils ont fait la même chose que tu disais. Ils ont mis la musique, même pendant qu'ils tournaient. Il y avait ce côté-là qu'encore une fois, la musique faisait partie de la scène et non était rajoutée par-dessus. Fait qu'il y a des techniques
puis
aussi.
Tout ça. Puis comment on représente la société aussi dans The Joker.
Oui,
aussi,
tout à fait.
C'est crédible et c'est fort.
Ouais.
J'aurais quand même été curieuse de voir, parce que justement, je pense que c'est quelque chose qui fait tellement de main de maître que je suis curieuse de voir comment il ferait ça. Mais bon, c'est quelque chose qui se pourra pas, parce que ce film-là a été déjà réalisé, critiqué, canné.
Ça reste un super-héros.
Voilà. Ça s'est fait de refaire des choses.
C'est jamais.
Mais oui. Est-ce que, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que maintenant que tu t'es rendu une spécialiste de Scorsese, est-ce que toi aussi, pourtant qui écoute le MCU, va bouder Marvel ou...
Définitivement pas.
OK.
J'ai eu peur.
Moi aussi, j'ai eu peur, là.
Définitivement pas. Note sur Marvel, Jim et moi, on est rendu dans la série Jessica Jones, dans le MCU, qui est terriblement lente, qui aurait besoin d'un petit peu de sriracha ou quelque chose comme ça,
un petit peu
de piquant.
L'épisode de 50 minutes, il aurait intérêt à durer 30 minutes.
Voilà, c'est ça. Mais non, Jim, je continuerai pas quand même à bouder.
Non, mais c'est pour savoir si en le comprenant plus, t'allais être d'accord avec lui. Puis...
mais je pense que Je pense qu'il y a différents types de films pour différents types de gens et pour différents moments, pour différentes émotions.
C'est ça,
émotions,
exactement. Genre, il y a des fois, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu prends une poutine à minuit le soir que nécessairement tu peux pas apprécier.
Comme fin connaisseur de poutine, ça fait ça.
Un caviar, tu sais, je veux dire, bon, rendu là, j'ai
poutine au caviar, ça doit pas être mauvais.
Rendu
hein.
là, caviar et poutine, c'est pas des choses non plus que je connais les deux, mais.
C'est ça.
Mais,
deux plats que François ne mange
deux plats
pas.
Que je connais pas nécessairement beaucoup, mais tu sais, ça reste le concept de dire il y a des moments dans la journée ou dans ta vie ou peu importe que t'aimes plus certains types de contenu comparativement à d'autres.
Exactement.
Puis chaque type de contenu est là pour chaque moment dans notre vie.
Effectivement, je partage ta vision.
Bon. Tout à fait.
Ben, merci beaucoup, Mélina. C'était fort agréable, ce petit tour, comment on pourrait appeler ça?
Un dossier.
Ce dossier sur
Scorsese. C'est ton
cadre
spécial.
C'était fort intéressant et ça donne envie d'aller voir définitivement sur Netflix le film donc The Irishman, qui est là pour toujours.
Plusieurs films de Scorsese
qui sont sur il y a l'air d'avoir une association intéressante. Ouais. Alors voilà, c'est tout pour nous pour cette semaine, mais c'est tout pour nous pour la décennie, en tout cas pour l'année, parce qu'en réalité, c'est ça, on se retrouve donc le 11 janvier, on vous laisse pour les fêtes et on vous présente peut-être un top quelque chose de nos meilleurs films de la décennie au retour.
Peut-être,
pourquoi pas. À suivre, sinon, on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et on se dit donc au mois prochain.
Oui, bon cinéma.
Oui.
Bye bye tout le monde.
Bonne semaine.